Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Radio. Vous avez 24 minutes dans une journée.
Tout savoir en 24 minutes.
Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Desureaux, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québécois. Voici Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes.
On attendait, on souhaite arriver rapidement à un pic hein, des soins, de la pression aux soins intensifs et dans le système hospitalier régulier. On y arrive tout presque, là, selon les chiffres dévoilés aujourd'hui. Les hospitalisations, là, on parle de plus 8, 3425 personnes hospitalisées au Québec. Mais c'est aux soins intensifs qu'on voit une première baisse depuis un très long moment, moins 3, 285 personnes hospitalisées en ce moment aux soins intensifs. Alors, est-ce que c'est... C'est encourageant. Est-ce qu'on verra une baisse demain encore?
Le plus 8 à l'hôpital, c'était, ça a été plus 200, plus 150, plus 120, plus 100, plus 80. Hier, c'était plus 36. Aujourd'hui, plus 8. Ça augmente toujours, mais de plus en plus lentement. Là, on est proche de passer le point où il va y avoir une journée, il va sortir plus de monde de l'hôpital qui va en rentrer, donc on va avoir une soustraction.
Ouais, et c'est fortement attendu parce qu'on sait que le système de santé est sous une pression absolument énorme. D'ailleurs, je vais vous faire entendre là-dessus deux médecins, entre autres le docteur Patricia Anne Caron et le docteur François Payette, des deux du CIUS de Montérégie-Est, qui parlent des conséquences du délestage et de la situation en ce moment, qui est problématique. Par contre, vous allez entendre dans l'extrait à la fin un peu d'espoir, surtout au niveau du personnel de la santé, qui revient, qui a été malade, mais qui revient en plus grand nombre en ce moment pour prêter main forte. On les écoute.
Il y a beaucoup de patients qui, une fois sur la liste d'attente, contractent la COVID et donc, lorsque leur tour arrive d'être opérés, ils ne peuvent pas être opérés et on doit retarder la chirurgie.
Il y a une importante quantité de lits, en fait près du tiers de nos lits de courte durée dans le CIS qui sont occupés par des patients positifs. Alors ça, ce sont évidemment des lits auxquels on n'a pas accès. La semaine dernière, il manquait dans le CIS près de 1000 employés et ce matin, il en manque 365. Donc, on a 302 employés qui sont positifs et on a 63 employés qui sont en isolement.
On voit un peu partout là, un certain retour, l'isolement qui est moins long également. Là où vraiment ça fait mal, c'est le nombre de décès aussi aujourd'hui, 88 nouveaux décès. En ce moment, dans le monde, le Québec est un des endroits où il y a le plus de morts là, par capita au niveau de la COVID-19. Alors, on espère voir ce chiffre-là baisser, mais il est très, très élevé.
Je voyais aujourd'hui, par exemple, en Ontario, province plus populeuse, qui avait quand même proportionnellement autant de cas aux soins intensifs, etc., mais il y avait 60 décès aujourd'hui en Ontario. À tous les jours, c'est au Québec. Et c'est vraiment difficile à expliquer. T'as beau dire...
Est-ce que c'est rendu aux soins intensifs? Là, on offre moins de services. Ben, est-ce que ça peut être le froid, carrément?
Ce que les médecins disent en soins intensifs, c'est qu'eux, ils en échappent pas beaucoup. Là. Que les gens qui décèdent, souvent, c'est des gens qui sont très malades, qui sont hospitalisés, et qui décèdent. Parce qu'aller aux soins intensifs, là, c'est le mot le dit, c'est des soins intensifs. Et donc, il y a des gens, beaucoup de gens refusent. Là. Veulent pas vivre l'expérience des soins intensifs, disent, bon, mais les gens qui acceptent de décéder, peut-être ils disent, OK, mais ça explique pas le nombre, ça explique que c'est pas
très sec, là, en période de grand froid, d'avoir des problèmes pulmonaires, ça peut nuire aussi,
peut-être
plein de facteurs, mais ce chiffre-là fait mal à voir. Toujours relié à la pandémie, aujourd'hui est attendu ce rapport, là, le rapport Castonguay, la commissaire Joanne Castonguay dépose aujourd'hui sur l'analyse scientifique. C'est ce qu'on nous explique, là, comprendre de manière scientifique ce qui a fait défaut au printemps 2020. Alors la fameuse première vague qui aura fait, on parle là, d'une véritable hécatombe. On sait chez nous, là, 4836 personnes âgées en milieu d'hébergement pour aînés qui sont décédées. La commissaire qui a parlé aujourd'hui d'un échec collectif, disant le Québec n'était pas prêt. Je vous fais entendre un extrait.
L'alerte n'a pas été sonnée au bon moment, étant donné l'impact que la pandémie a eu dans les CHSLD. Ce que les gens disent, c'est qu'on a tardé à réagir puis que le système de vigie n'était pas approprié.
Alors, c'est pas un portrait nouveau, hein, mais qui est expliqué dans ce rapport. On explique qu'on disposait pas d'un plan actualisé de gestion de crise, que la quantité d'équipement était en nombre insuffisant, partage des rôles et des responsabilités qui étaient confus. Alors, on dénote plusieurs problèmes à ce niveau-là. Un paternalisme également du ministère de la Santé et des Services sociaux envers les aînés, de sorte qu'on n'écoutait pas, on dictait, en gros, la façon dont on allait s'occuper des personnes âgées sans écouter nécessairement les gens de ce milieu. Question aussi au niveau du directeur national de la santé publique. On demande une plus grande transparence autour des avis du directeur national de santé publique. On parle du sous-financement de ce secteur au cours des dernières années qui a été un peu laissé pour compte, même par rapport à la moyenne canadienne. On dit qu'il n'est pas nécessaire d'engager dans l'immédiat des réformes de la structure de l'organisation des acteurs de santé publique, mais assurément des questions à se poser, de sorte qu'on a quatre grandes recommandations, là, données sur les résultats d'avoir des données sur les résultats pour des soins et services hébergement performants.
Mais juste celle-là, c'est quand même gros, là. Tu reconnais dans un rapport de commissaire à la santé que ton système de santé gère pas les résultats. Gère le processus. En d'autres termes, t'as comme... c'est comme si au ministère ou dans l'administration, les hauts fonctionnaires, quand tu dis, nous, on l'a mis en place. Il y avait un protocole, une chose à mettre en place, on l'a fait, là. Ouais, mais... ça n'a pas marché. Tu comprends? C'est comme...
Je comprends, t'as une chaîne de montage de voiture, mais tu regardes jamais au bout du compte si la voiture, elle roule bien.
Ouais. La voiture, elle roule jamais, là. T'as mis sa route, tourne la clé, elle part jamais.
Tu fais juste en ajouter dans
cette chaîne. Tu dis, wow.
La chaîne de montage.
Toute la chaîne de montage est là. Le toit est passé à chaque étape. Il y avait 398 étapes. Tout est correct.
Il y a des comités qui ont tout vérifié. On n'a jamais conduit la voiture.
Non, jamais vérifié. Elle marche-tu? Tu tournes la clé à part, tu tournes la courbe, tu prends une courbe, tu tournes le volant à suivre la courbe. Marches-tu l'auto?
Non, là, elle perdait toujours une roue, on s'en est pas rendu compte.
Mais c'est parce que c'est comme si on se dit, non, ça, c'est plus de nos affaires rendues là.
Parce qu'on parle de soins de santé mieux intégrés aussi dans les milieux de vie, stratégie gouvernementale axée sur la valeur en santé, soit l'amélioration de la santé, du bien-être de la population. Alors des constats comme ça qui amènent Christian Dubé à réagir aujourd'hui, disant accueillir ce rapport remerciant la commissaire pour son travail. Nous avons la ferme intention de donner suite à ce rapport, c'est ce que dit Christian Dubé. Est-ce que par contre ça va calmer les demandes de l'opposition qui souhaite une enquête, une enquête publique complète sur la première vague? On verra, parce que c'est pas un rapport qui cherchait à pointer du doigt des coupables.
À mon avis, le rapport de la coroner va être un peu plus proche de ça, là. La coroner a fouillé beaucoup, parce que d'abord, elle a interrogé des gens, elle a fouillé beaucoup plus proche de la responsabilité de chacun, puis de qui a fait quoi, là, au cours de ce printemps 2020.
Tout savoir en 24 minutes.
Point de presse de Justin Trudeau où il manquait pas de sujet aujourd'hui, Mario, en commençant par l'inflation.
En fait, la période des questions manquait pas de sujet. C'est... parce que son énoncé, c'était général, là.
C'était en plein dans ton émission. Monsieur était revenu en disant, pas de grands points, de grandes annonces
vraiment,
de M. Trudeau aujourd'hui.
Non.
On parlait quand même, il a été effectivement questionné sur plusieurs sujets d'actualité, incluant l'inflation, là, parce qu'aujourd'hui, on dévoilait, au niveau d'inflation jamais vu en 30 ans au pays. Et là-dessus, le premier ministre changera pas de stratégie, souhaite pas avoir nécessairement de nouvelles façons d'attaquer ce problème-là, qu'il voit comme directement relié à la pandémie, donc d'une durée plus courte dans le temps. Je vous fais entendre le premier ministre là-dessus.
Nous sommes évidemment préoccupés par ce phénomène mondial de l'inflation. C'est causé par cette pandémie globale, mais aussi par des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement.
Aujourd'hui, il doit annoncer un plan pour renverser l'augmentation dans le coût de vie que son gouvernement a causé auprès des Canadiens. Ce n'est pas assez de blâmer les autres pays.
C'était Pierre Poilievre, critique donc de l'opposition là-dessus sur le fait, parce que Justin Trudeau dit bon, lui souhaitait là que l'aide au logement, les programmes d'aide d'urgence en pandémie ou l'accès aux services de garde abordables viennent apaiser le coût de l'inflation pour les Canadiens. Faut croire que tout le monde n'est pas d'accord.
Non, mais je veux dire la première conséquence de l'inflation pour les Canadiens, il y a une conséquence bien concrète là, c'est l'achat de tes biens et de tes services coûte plus cher, là. Tu le sens dans ton portefeuille. Mais l'autre conséquence concrète, ça viendra pas par une décision du gouvernement, elle va venir par des décisions de la Banque du Canada. Et plus l'inflation est un problème, là, en début d'année, c'en est un. Donc, probablement que la Banque du Canada, dans ses anticipations, les taux d'intérêt vont monter dans l'année qui vient, mais dans ses anticipations de à quel point on monte les taux d'intérêt. À coup de 0,25. Là, on est à 0,25. Puis ça fait des sauts de 0,25. Donc, la prochaine fois, ça va être 1,5, 3/4, 1%. Est-ce qu'on le fait deux fois dans l'année? Deux hausses? Trois hausses? Si on fait trois hausses, ça veut dire qu'à Noël, l'année prochaine, on est rendu à 1% des taux d'intérêt, le taux directeur. Est-ce qu'on pourrait aller aux États-Unis? Ils sont rendus à cause de l'inflation. Ils parlent de peut-être quatre fois monter les taux d'intérêt. Donc, à chaque trimestre, tu monterais les taux d'intérêt. Donc, ça, c'est la conséquence pour la population. La vie coûte plus cher et les taux d'intérêt pourraient augmenter davantage, ce qui est une autre augmentation du coût de la vie parce que ben des gens payent des intérêts, soit sur des cartes de crédit ou que ce soit sur des hypothèques. Mais M. Trudeau se dissocie, c'est-à-dire qu'il associe l'inflation uniquement à des causes extérieures.
Ouais. Disons que c'est comme ça partout dans le monde, entre autres.
Ben, oui, mais parce que c'est beaucoup ça dans les pays où les gouvernements ont dépensé exagérément. Là. Et c'est le cas du Canada, où le gouvernement a dépensé tellement qu'à un point, il a imprimé de l'argent et a créé artificiellement, tu fais apparaître artificiellement de l'argent. Ben, il y a une partie de cet argent artificiel-là qui devient non pas... C'est pas de la vraie nouvelle richesse dans le pays, là. Ça se perd juste en hausse de prix sur les biens et les services, les marchandises que tu as déjà.
Dans les autres sujets aujourd'hui, parce qu'il y en avait plusieurs, un mot sur l'Ukraine qui inquiète Justin Trudeau. C'est extrêmement préoccupé par la situation là-bas. On sait que la Russie a stationné environ 100 000 soldats, de nombreux chars d'assaut, aussi de l'artillerie lourde à la frontière avec l'Ukraine, ce qui est dénoncé par à la fois les Américains et les Canadiens. Craint carrément un conflit armé en Ukraine, se disant préoccupé, dit par le positionnement du gouvernement russe, par ce qu'il est en train de dire et les envois de soldats à la frontière avec l'Ukraine. C'est une inquiétude partagée par nos alliés à travers le monde et par le gouvernement ukrainien.
Ouais. Puis si tu lis les journaux européens, le langage a changé. Tu sais, il y a 10 jours, c'était des rencontres diplomatiques avec l'OTAN, puis on pensait que ça allait prendre son chemin là, des discussions diplomatiques. Mais là, ça parle abondamment de guerre, de conflits armés, d'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, qui déclencherait. Je veux dire, tu peux pas laisser passer ça, là. Ça déclencherait une série d'actions. Si les soldats russes rentrent vraiment sur le territoire de l'Ukraine.
Ils franchissent une ligne rouge, là.
Oui, qui déclenche une cascade d'événements. Et j'ai aimé là-dessus la fermeté de M. Trudeau.
Et des inquiétudes aussi sur les Olympiques. Pour terminer, là-dessus, Justin Trudeau qui s'inquiète de ce qui a été rapporté, entre autres, par Radio-Canada CBC, là, sur le fait que des tests en Chine sont extrêmement sensibles et semblent détecter des infections de la COVID qui datent de même plusieurs semaines. Ce qui amène des doutes sur des athlètes qui pourraient se retrouver là-bas, tester positif, être retirés de leur compétition.
Envoyés dans un isolement pas agréable.
Dans un isolement sûrement pas agréable, alors qu'ils seraient en état de compétitionner. Aujourd'hui, Justin Trudeau dit qu'il y avait des préoccupations spécifiques. Enfin, s'il y a des préoccupations spécifiques par rapport aux tests, on va faire des suivis. J'espère que la Chine va permettre aux Jeux olympiques de se dérouler permettre aux athlètes de partout d'être à leur meilleur pour pouvoir célébrer ce moment sportif rassembleur à travers le monde. Mais on sent que l'inquiétude augmente beaucoup. On parlait tantôt avec Dominique Gauthier, ex-athlète, entraîneur également, qui disait qu'il y avait des inquiétudes et ça s'est transformé en peur carrément dans les derniers jours avec ce qui se passe présentement en Chine, alors des jeux qui commencent à stresser de nombreux athlètes. Toujours dans le monde du sport, c'était très attendu de voir finalement et de pouvoir rencontrer Kent Hughes, le nouveau directeur général du Canadien. On a appris plus tôt cette semaine qu'il allait remplacer Marc Bergevin à ce titre et c'est un homme peu connu des fans du Canadien. Alors, il a été dévoilé officiellement en point de presse aujourd'hui sur la glace du Centre Bell. On avait descendu d'ailleurs la structure centrale, le comment on l'appelle?
Le tableau
indicateur central, pardonnez-moi, au centre donc pour faire un petit fond à cette conférence de presse où le propriétaire Geoff Molson, vice-président Jeff Gorton était présent, et au centre le nouveau DG du Canadien Kent Hughes, qui a parlé rapidement là, mais on voulait voir son niveau de français entre autres, ça intéressait plusieurs personnes. Je vous le laisse entendre où il parle de l'importance pour lui qu'avait le Canadien et à quel point c'est un honneur de prendre ce poste.
Pour un gars d'ici, être le directeur de général des Canadiens est une occasion d'une vie. Mon parcours d'agent m'a emmené partout dans le monde d'hockey et Montréal demeure pour moi la plus grande ville d'hockey. La passion des partisans ici est sans pareil.
Et plus loin, c'est pas en réponse à des questions, il a carrément, on lui a demandé ce qu'il avait hésité, parce que c'était pas un gars qui était sur le chômage, là. Il y avait, je sais pas comment il devait gagner en revenu, Vincent. On disait qu'il y avait 290 millions de valeur.
En contrat,
de
là.
Contrat.
Chez Quartex.
Mais non, mais je veux dire, il doit, écoute, un agent, là, mettons, dans le monde artistique, qui se prend des bons pourcentages, mais mettons 1%. Mettons qu'à lui, dans sa poche, il revient, mettons 1%.
Oui, là, ça fait presque 3 millions.
C'est 3 millions par année. Là.
Ben, mettons que tu as fait ton argent là, et que là, tu es un petit gars de Montréal.
Je le crois,
Canadien. Tu as fait le tour de ta carrière d'agent de joueur. Ça ne doit pas être des mauvais salaires non plus, là, des
non,
jeux du Canadien.
Non, mais je pense pas qu'ils peuvent l'amener au même salaire.
Là. Non, je pense pas. Mais l'opportunité...
Non, je crois ça. Je crois ça. Puis un nouveau défi. Tu te dis, regarde, on me donne le pouvoir de monter une équipe. Et lui, ce qu'il y a de beau dans le défi, tu sais c'est quoi?
C'est qu'il est énorme.
C'est impossible de faire pire. Il prend l'équipe, le jour où il prend l'équipe, son dernier de la Ligue.
C'est vrai qu'à partir de là...
Tu ne peux que t'améliorer. T'imagines-tu comment c'est rassurant, ça, dans la vie?
Ça, c'est vrai. Il dit par contre, c'est une chose à la fois, pas dévoiler son plan de match clair sur ce qui s'en vient, disant tout simplement, il vient de l'apprendre, négocier son contrat, et là, il va s'asseoir avec Jeff et Geoff pour pouvoir voir un peu la situation, rencontrer les joueurs, beaucoup de pain sur la planche. Mais entre autres, il y a le repêchage qui sera travaillé, la situation actuelle avec le Canadien, gardien de but. Mais c'est pas la liste.
Mais la première étape là, qui va y arriver, il y a bien des étapes. C'est la date limite des échanges. Là. Les équipes qui veulent se renforcer pour les séries seront peut-être prêtes à donner aux Canadiens quelques bons choix au repêchage pour venir chercher dans l'équipe certains noms, des Toffoli, des Petrie, je sais plus s'ils vont encore quelque chose. Parce qu'il y en a... Mais c'est que tu sais plus, est-ce que les agents des joueurs ou la direction du Canadien vont pouvoir convaincre d'autres équipes que, écoute, il est encore bon, c'est juste que cette année, c'est tellement difficile pour l'équipe, tu peux pas juger, parce qu'ils ont tous de mauvaises performances, ça fait que...
Ouais, il y en a pas un qui ressort en disant lui au moins,
Non, pas ben. Mais faut-tu convaincre l'autre équipe que On peut pas les juger basés sur la performance dans une saison aussi difficile, avec autant de blessés, avec autant de problèmes, avec...
Kent Hughes est de retour chez lui à Montréal et vivra le classique, c'est-à-dire des problèmes sur les routes, des tempêtes. Lui qui était à Boston depuis plusieurs années.
Il y a des tempêtes à Boston aussi. Il y avait de la neige quand même.
Ça, c'est vrai, mais là, c'est la totale. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de problèmes sur les routes en raison de cette chute de neige quand même. Et beaucoup de vent qui auront causé des problèmes à plusieurs endroits au Québec, particulièrement dans le secteur de Lévis, là, où trois carambolages carrément sont venus faire des problèmes sur l'autoroute 20. Le premier, là où on peut embarquer vers l'avenue Taniata, kilomètre 318, et ensuite deux autres gros accidents autour. On parle de quelques dizaines de voitures impliquées. Et ensuite, un peu partout à travers le Québec, là, à Lachenaie sur la 640, l'autoroute 40 près de la montée Saint-Sulpice. Là, on parle de carambolage, l'autoroute 10 ouest.
Oui, c'est important. Là, on ne parle pas d'une sortie de route d'un seul véhicule. On parle de carambolage.
Un autre carambolage, l'autoroute 25 sud près de Terrebonne. Alors vraiment, ce matin, c'était très, très difficile. Carambolage dans le secteur de Mirabel sur l'autoroute 50. Bref, ça a été très difficile. Heureusement, on parle de matériel, quelques blessures mineures, mais pas de blessures graves dans toute cette série d'accidents. Vous dire aussi d'être vigilant un peu partout à travers les villes où on est en opération d'éneigement qui se poursuit. On disait à Montréal d'ailleurs que ça allait bon train, mais il faut faire attention au remorquage dans ces périodes de déneigement massif. Nouvelle assez particulière, Mario, que je trouve très intéressante, concernant une compagnie québécoise, assurément peu connue, je pense, des Québécois, mais qui
va peut-être devenir plus connue là,
dans les mois à venir, qui s'appelle Top Aces. C'est une compagnie, pour essayer de vous expliquer un peu ce qu'ils font, servent d'ennemis à des pilotes de chasse. Là. Alors, ils font déjà ça avec l'armée canadienne présentement. Donc, pour éviter d'utiliser les CF-18 qui coûtent extrêmement cher à faire voler, donc pour limiter le nombre d'heures de vol, on devient en quelque sorte, si on est chez Top Aces, on est un pilote, par exemple, de F-18 à la retraite, travaille chez Top Aces, on aura donc un avion de chasse moins coûteux à faire voler et on sert d'ennemi. Alors, t'entraînes les pilotes.
Ils se tirent pas dessus pour vrai, là.
Ils se tirent pas dessus pour vrai. C'est des programmes informatiques, c'est des manœuvres qui sont pratiquées. Mais en gros, c'est une compagnie qui sert à entraîner des pilotes de chasse en jouant l'ennemi, ce qui permet de sauver des heures de vol aux précieux avions.
Mais eux, ils sont quand même propriétaires d'avions qui ont déjà été des avions de chasse, quoi.
Tout à fait, des flottes de jets. Pour l'instant, c'était surtout des Alpha Jets, comme ce qu'ils ont à Bagotville, par exemple, pour entraîner les pilotes de chasse canadiens. C'est des Alpha Jets, des petits avions de chasse, très agiles, qui peuvent servir, donc, d'ennemis. Mais là, dernièrement, ils ont signé, ça avait fait d'ailleurs les manchettes l'an dernier, en janvier, un contrat gigantesque avec l'armée américaine. Donc, on parle là, d'un contrat jamais vu.
Donc, c'est une firme de Montréal qui va entraîner les pilotes
de chasse américains de la US Air Force avec des F-16. Donc, des F-16 possédés par une compagnie privée. Moi, j'avais jamais vu ça. Donc, des F-16 israéliens, entre autres, qui ont été achetés, transportés aux États-Unis. Et là, hier, a eu lieu leur premier vol d'un F-16 équipé de leur nouveau système, parce qu'ils ont un dispositif qu'ils ont développé. L'entreprise québécoise a développé un système qui est à bord de leur F-16, qui a pour fonctionnalité d'imiter les fonctionnements de plusieurs types d'avions de chasse d'un peu partout dans le monde. Alors, si tu veux simuler que t'es tel avion d'un ennemi russe, d'un avion israélien, d'un avion du Maroc, peu importe, on est capable de faire ce genre de transfert-là de technologie pour pouvoir utiliser un seul F-16 et entraîner les pilotes à faire face à une diversité d'ennemis. Alors, c'est vraiment un travail monumental qui a été fait sur 4 ans par Top Aces, qui va donc préparer ces avions de chasse. On a acheté plus d'une vingtaine
Quand, mettons, l'armée américaine cherche une compagnie pour entraîner ses pilotes, là, tu dois pas avoir beaucoup d'appels d'offres. Normalement, t'es le seul soumissionnaire. Ils doivent être les seuls qui ont cet équipement-là, qui ont cette compétence-là.
Quelques compagnies qui en font un peu, je pense, mais ça devient le fleuron, le plus gros dans ce marché de niche un peu, mais qui se gère à coups de milliards, là, on s'entend, là, les budgets
américains.
Oui, je comprends
que ça te prend des gros revenus de tes contrats, parce qu'acheter des avions de chasse, c'est pas bon marché, là.
Alors, on peut s'attendre à voir cette compagnie québécoise grandir, parce qu'ils peuvent avoir des clients un peu partout dans le monde, et là, font une percée très importante aux États-Unis.
La première variété de Star Academy avait été reportée.
Et là, une nouvelle fois.
Deuxième semaine
en raison de cas de COVID. On voit que le milieu de la télévision qui souvent nous sauve un peu alors qu'on est on est à l'intérieur beaucoup plus, on limite nos rencontres sociales. La télé pour plusieurs a été une grande source de divertissement en période de pandémie, mais Star Academy qui était très attendu devra attendre un peu. On sait qu'il y avait eu un report la semaine dernière juste avant là, le premier gala en raison d'une éclosion de COVID-19. Ça fait 4 cas. Là c'est 6 qui s'ajoute à ça chez les académiciens, de sorte qu'on devra reporter pour une autre semaine le variété.
On rappelle, là, dans l'intervalle, ils restent tous enfermés, chacun à l'hôtel.
Oui, parce qu'on parlait, ils étaient déjà là en confinement depuis le 3 janvier, mais on sait qu'il y a du travail qui se fait quand même. Là, on parle d'un isolement complet le temps de reprendre le contrôle. On est quand même confiant chez Québécois Contenu et chez Production Déferlante qu'on pourra aller de l'avant la semaine suivante, soit le 30 janvier, parce que là, écoute, pratiquement tous les académiciens auront eu la maladie.
Ouais, c'est ça.
Alors, devrait pouvoir être protégé pour un certain temps. Mais on voit que le milieu de la télé, faire des tournages, c'est difficile comme tous les autres domaines en ce moment.
Mais c'est-à-dire que dans le cas de Star Academy, les autres, ils se comportent, les jeunes entre eux, ils se comportent comme une bulle, là. Fait qu'il faut pas qu'Omicron pète la bulle, rentre dedans. Tant que t'es correct en bulle, il n'y a pas de problème.
Tout à fait. Puis on voyait, Mario, que sur les plateaux de tournage, avec les variants précédents, on était capable d'éviter les éclosions parce que avec la distanciation, les masques, les procédures étaient en quelque sorte correctes pour Delta et les variants précédents. On voit qu'avec Omicron, c'est une
difficulté. Mais partout avec Omicron, les gens prennent des mesures puis ils se propagent pareil, là.
Exactement.
Vraiment pas facile à garder en contrôle, là.
Et je termine avec la situation des jeunes et de la glissade. Aujourd'hui, le CHU Sainte-Justine a lancé un appel surtout aux parents, là, mais aux jeunes, des ados aussi qui peuvent aller glisser. Beaucoup de blessures en ce moment au Québec, alors que les centres hospitaliers sont bondés. Faut faire attention. 35 enfants et adolescents sont arrivés au CHU Sainte-Justine dans les dernières semaines, avec dans certains cas des blessures assez sérieuses, de commotion cérébrale, hémorragie, fractures multiples, même du bassin, des blessures aux organes internes dans certains cas. Alors, on rappelle que oui, on peut aller glisser, mais on doit surtout aller dans un endroit qui est dégagé et où il n'y a pas d'obstacle, parce que la moitié des blessures ont été causées par des collisions.
C'est une activité techniquement là, posée être relativement sécuritaire, mais...
Oui, mais des fois, tu penses que ça, je me rendrai pas aux arbres là-bas, c'est sûr que non.
Finalement, non, dans le vraiment, vraiment à pic, vraiment glacé, etc., tu peux créer des circonstances où ça devient absolument
c'est ça. Absolument alors, le désir dangereux. D'aller vite, là, des fois, il faut se contrôler un peu.
Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.